sont libres. Ils financent la radio que vous avez choisie. Pensez-y. Présence.
Radio Présence, 15h. De passage à Lourdes.
Plusieurs centaines de scouts passent chaque année, chaque été, par Lourdes. Pour nous parler du comment on organise la venue et comment on coordonne en quelque sorte l'action de tous ces scouts à Lourdes chaque année, nous allons entendre Patrick Denis. Bonjour.
Bonjour Mathias.
Vous êtes chargé de mission par l'Aumônerie Générale des Scouts et Guides de France pour justement le projet Lourdes.
Oui, tout à fait.
Ce projet Lourdes, je le disais, en fait, c'est d'abord des jeunes qui ont entre quel âge et quel âge ?
Les jeunes entre 14 et 17 ans.
Ils ont 14 à 17 ans et ils sont scouts.
Et ils sont scouts. Et on a ouvert maintenant un petit peu aux âges plus grands qui sont en demande, donc 17-20. Donc tout le monde est bienvenu à Lourdes.
Ils viennent à Lourdes, ils vont vivre un temps communautaire, un temps de fête, un temps de joie, de partage et de service.
Voilà, surtout le service. C'est un cap qui détermine au départ de leur année. Et le camp est finalement la finalité de leur année où ils vont faire du service à Lourdes, mais pas que. Nous voulons que les scouts ne soient pas que des petits bras qui travaillent, mais qui puissent aussi vivre des moments intenses avec d'autres scouts, d'autres régions, d'autres pays, mais aussi vivre des moments de la pastorale.
Nous reviendrons, si vous le voulez bien, dans la deuxième partie de cette émission sur la vie de ces scouts à Lourdes, parce que c'est vrai que c'est presque incontournable quand on passe à Lourdes un été de croiser un groupe scout avec la joie qui se dégage, l'action, le dynamisme de ces jeunes. On en parle dans la deuxième partie de cette émission, mais si vous l'acceptez, Patrick Denis, on pourrait un peu parler de vous, du scout que vous avez été vous-même.
Oui,
si
tout
j'ose
à fait.
Dire. Depuis l'âge de 10 ans, vous êtes dans le scoutisme.
Oui, depuis 1981, je suis dans le scoutisme. Et je pense que les scouts qui nous écoutent ou les anciens scouts qui nous écoutent peuvent le dire, on est scout pour toujours. Donc même si on construit sa vie après, le scoutisme reste tout le temps dans la peau.
Vous êtes né en Belgique, vous êtes toujours belge.
Je suis belge.
Vous vivez dans le sud de la France.
Oui.
Du côté de Béziers.
Oui, tout à fait.
Et vous avez cet engagement viscéral, chevillé au corps depuis toujours.
Depuis toujours, oui.
Et même votre famille, c'est le même cas. Enfin, je parle de vos parents, par exemple.
Mes parents étaient dans le scoutisme. Ils m'ont poussé à aller dans le scoutisme. Je l'ai fait. On a construit ensemble une unité scout qui tourne encore actuellement. Donc, voilà, le scoutisme est toujours là.
Le scoutisme a occupé une bonne partie de votre jeunesse, de votre vie. Mais vous avez aussi exercé un métier.
Oui.
Jusqu'au 24 juillet 2006, vous êtes professeur de danse.
Exact.
Et là, en une seconde, toute votre vie bascule.
Oui, un accident, comme tous les accidents bêtes, m'oblige à arrêter un petit peu la danse, de la mettre sur le côté, même s'il y a eu des tentatives de reprise. Mais la vie a changé au niveau familial et professionnel, effectivement, oui.
Sans entrer dans le détail, cet accident, c'est dans la salle de danse. Vous
oui.
êtes professeur, vous avez même un studio de danse.
Oui.
Il y a combien d'élèves ? 500 élèves ?
500 élèves qui tournent 7 jours sur 7 sur l'école de danse.
Et avec votre épouse Christelle, vous êtes tous les deux professeurs et vous dirigez ce
On dirige cette école de danse.
Où on transmet la passion pour la danse de salon.
Voilà, exactement. Oui.
La salsa, la valse, le
rock, etc. Oui.
Et puis toutes les danses modernes aussi, hein, qui sont
oui, bien sûr, on a ouvert, on peut
par les stars d'aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Et ce 24 juillet, c'est un miroir qui se brise et qui vous coupe un bras.
Voilà, sectionne une bonne partie du bras, mais ne sectionne pas l'envie de poursuivre une vie. À 36 ans, on a besoin de projets et c'est pour ça que je me tourne après doucement vers le... Enfin, je retourne vers le scoutisme, étant donné que avec le mariage, les choses comme ça, on se sépare un petit peu du scoutisme, on a d'autres priorités. Et là, les enfants ayant grandi, on reprend le scoutisme en famille et donc cet engagement qui m'a été demandé.
11 ans après cet événement qui a quand même bouleversé votre vie personnelle, familiale, Vous êtes en rapport comment avec cet événement ? C'est douloureux toujours, c'est difficile toujours pour vous d'en parler ?
Quand on arrive à passer un cap, on est déjà heureux. C'est difficile à passer, hein, les caps, quand on a des activités très intenses et que du jour au lendemain, on est réduit à ce qu'on pense, nous, presque rien. Mais le temps fait qu'on se reconstruit avec une famille, avec des enfants, des amis. On reconnaît aussi ses vrais amis dans l'épreuve. Et cette épreuve me sert d'exemple en se disant, voilà, tout n'est pas perdu, on peut continuer, on peut avancer.
Et quelles sont les séquelles de cet accident grave, très grave, hein, que vous avez subi ?
Les séquelles sont qu'on est dépendant pour certaines choses. Mais la rééducation fait qu'on peut reprendre goût à la vie et reprendre ses activités en s'adaptant, évidemment. Et je pense qu'ici, Lourdes, on voit aussi beaucoup de personnes qui sont dans la situation de handicap et on espère qu'ils restent tous dans cette foi et dans cette espérance de pouvoir poursuivre leur chemin.
On garde pour quelques secondes de côté la foi dans votre épreuve, oui. Mais on y reviendra, je vous le promets. Aujourd'hui, tel que je vous vois là dans ce studio, Patrick, vous avez vos deux bras. Vous n'avez, oui. En tout cas en apparence, pas de handicap. C'est très étonnant qu'on ait le récit de cet événement dramatique d'un bras sectionné en 2006. Et puis là, moi, je vous vois avec deux bras. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Des prouesses médicales ?
Déjà, une bonne équipe de médecins était autour de moi et était au bon moment, au bon endroit. Hein. Quand ça arrive, on n'a que quelques secondes pour récupérer et puis on n'a que quelques minutes pour récupérer les artères. Ce qui a été fait avec une équipe médicale que je remercierai toute ma vie, qui a tout le temps été là et qui est encore là, d'ailleurs maintenant, avec qui j'ai régulièrement des contacts. Et puis il y a aussi les associations. Je pense à l'association francophone pour vaincre la douleur, qui est une association ici française qui nous aide, nous, aux personnes en situation de handicap ou qui a mal, qui souffrent, les personnes qui souffrent, de les aider, de trouver des pistes, de mettre des neurostimulateurs, des traitements adaptés.
Oui. Donc aujourd'hui, votre bras a été regreffé.
Oui.
Et je vois que vous en avez un peu la mobilité.
Oui, hein, tout
même
à fait.
En apparence, il n'y a pas de souci. Et comment cela est connecté avec votre cerveau ? On rentre dans le détail, excusez-nous, mais c'est étonnant quand même ce qui vous est arrivé.
Oui, mais c'est simplement, simplement, si on peut dire, un boîtier qui est mis sous-cutané, qui est un neurostimulateur, qui stimule en fait simplement les nerfs du bras et qui empêche la douleur. Étant donné qu'il y a un circuit électrique qui passe dans les bras et dans les doigts, ben le cerveau se dit « Ok, il y a un flux qui passe, donc tu n'as pas mal, donc super. »
Parce que la douleur vous a longtemps tiraillé.
Ah oui, longtemps.
C'est jour et nuit.
Jour et nuit, oui. Jour et nuit, la douleur, les antidouleurs ne fonctionnaient plus. Donc on a mis ce neurostimulateur avec évidemment un risque. On l'implante quand même dans la moelle épinière. Donc on se pose quand même la question de se dire, mais à un certain moment, on est tellement loin dans la douleur qu'on se dit, tentons. Et je l'ai tenté et super. À refaire si je devais encore avoir un grave accident, ce que je n'espère pas.
Ce qui sans doute interpelle à ce stade de notre conversation nos auditeurs, c'est de se dire mais comment on fait pour rebondir comme Patrick quand on a subi ce qu'il a subi, c'est-à-dire sa carrière était promise à quelque chose d'assez intéressant, voire passionnant, danseur, professeur de danse, avec son épouse, tout va bien, et puis en une seconde tout bascule.
Oui.
Et comment on fait pour rebondir ? Parce qu'on est sonné quand même dans les mois qui suivent.
Les mois, même les années.
Les années.
Oui. On est sonné, mais je pense que la chose la plus importante, c'est notre famille, les personnes qui nous entourent. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là, sont seules. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants, d'avoir mon épouse, d'avoir mes parents et mes amis qui étaient vraiment là pour m'encourager et de se dire « Non, tu n'es pas quelqu'un de différent, tu es toujours quelqu'un, ce quelqu'un qu'on a toujours connu, tu es Patrick et tu resteras toujours Patrick. » Évidemment, il y a aussi d'autres choses moins gaies, c'est qu'on reconnaît ses véritables amis.
Ah oui, et là vous... Bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est des douleurs aussi personnelles de se dire « j'ai perdu de vue un tel ou un tel et un tel ».
Oui, c'est qu'on n'avait peut-être pas la bonne valeur à leurs yeux, ou peut-être que le handicap, on ne peut peut-être pas jeter la pierre, mais peut-être que le handicap ou la personne différente leur fait peur.
Aujourd'hui, 11 ans après... Ça va beaucoup mieux avec cette histoire douloureuse.
Oui, tout à fait.
Même si toutes les plaines sont pas refermées, sans doute, pour vous.
elles ne seront jamais refermées. La preuve, il y a les cicatrices, donc les cicatrices resteront tout le temps.
Mais avec la danse, parce que vous avez sans doute été un danseur avec physiquement un entraînement, un rythme de vie personnel tout à fait adossé à cette activité. Aujourd'hui, vous avez changé de vie.
On a changé de vie et le bris de miroir ne veut-il pas dire qu'il faut couper quelque chose et recommencer autre chose ? C'est la question qu'on se pose.
Oui.
Et la question que je me pose encore, parfois je me dis, pourquoi ne pas reprendre la danse ? À un autre niveau, évidemment, il y a 11 ans qui ont passé.
Oui, puis mais vous pourriez toujours enseigner avec les mots, avec le verbe. Enfin,
oui, mais j'ai enseigné après mon accident, mais voilà, c'était une épreuve. Mais bon, la passion m'a poussé à le faire, mais à un certain moment, le corps dit stop, et la tête aussi.
La page est tournée. Et c'est la raison pour laquelle vous avez déménagé, vous êtes venu dans le sud de la France ?
La page est tournée, mais peut-être pas le chapitre. Donc, on verra dans les prochaines années, peut-être. Hein, oui. J'ai encore jeune, 46 ans. Mais effectivement, entre-temps, on a déménagé. On n'a plus attendu la retraite pour vivre nos projets. Nous sommes venus dans le sud. Et voilà.
Oui. Et donc aujourd'hui, vous y êtes et nous allons en venir, parce que là, le scoutisme, ça vous tient, ça vous poursuit. Mmh. Nous allons en revenir au scoutisme.
Oui.
Je l'ai promis, dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de Lourdes et du scoutisme à Lourdes. Mais pour ce qui vous concerne, est-ce que les valeurs du scoutisme, ça vous a aussi porté dans cette difficulté, dans ce chemin difficile que vous avez parcouru ?
Ben, je pense que le scoutisme est une école de vie dans tous les domaines de la vie. D'ailleurs, il y a des statistiques qui disent que quand plusieurs jeunes ou moins jeunes vont pour trouver un emploi dans une interview, eh bien, l'employeur va prendre généralement les personnes qui ont fait du scoutisme. Donc, c'est une étude qui a été amenée et portée. Donc, le scoutisme nous suit quand même tout le temps, et oui, le scoutisme m'a porté.
Et la foi. Là, si vous le voulez bien, la question de la foi, on en parle juste après la pause.
Merci.
À tout de suite.
Chaque semaine, dans Et Dieu dans tout ça, James Combépine nous propose de partir à la rencontre d'une personne, qu'elle soit croyante ou incroyante, pour aborder ensemble son rapport à l'homme, à la vie, à la spiritualité et à Dieu. Et Dieu dans tout ça,
tous les dimanches à midi.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Merci Patrick d'accepter de vous livrer un peu sur votre parcours personnel. Patrick Denis, vous êtes chargé de mission par l'Aumônerie Générale des Scouts et Guides de France. Pour le projet Lourdes, il se trouve qu'à Lourdes, il y a des centaines de scouts qui passent chaque année, chaque été.
Oui.
Encore plus, l'été qui vient, ça monte en puissance. Il y a manifestement une sorte d'engouement. En tout cas, la proposition telle qu'elle est faite par Lourdes, avec ce qu'est Lourdes à travers son message, et puis aussi l'accompagnement de toute la fragilité à travers les personnes malades, ça rejoint les jeunes qui eux-mêmes choisissent de venir.
Hein. Voilà, oui.
Oui. Avant de parler de cela et de votre activité à Lourdes, la foi, comment ça vous a aidé, porté, lorsque vous avez dû traverser ces difficultés dont nous parlions juste avant la pause ?
Mais la foi m'a... D'abord, je suis baptisé, déjà. Mes parents ont une éducation religieuse, pratiquante au grand moment, on va dire, à un certain moment. Et moi, petit à petit, je me suis livré en me disant, voilà, c'est bien de se livrer à sa famille, mais à qui est-ce qu'on peut aussi déposer ses douleurs ? Et donc, Marie m'a aidé. J'ai déposé beaucoup de choses à la grotte. C'est pour ça que je me réjouis de cette mission ici à Lourdes, parce que je pense qu'elle m'a beaucoup aidé. Je pense aussi que, évidemment, quand on a un accident comme ça, il y a tout un suivi psychologique qui est suivi, qui est demandé. Mais moi, je pense que je peux dire aujourd'hui que ma psy s'appelle Marie.
Carrément.
Oui, carrément. Parce que on a des psychologues, on a des psychiatres à qui on se livre.
Qui font bien leur travail.
Qui font forcément bien leur travail. Hein. Ça, c'est incontestable. Mais peut-être qu'on a besoin d'autre chose, un autre chemin. Et ce chemin, pour moi, c'est le chemin de la foi.
Vous avez déposé des fardeaux ici à Lourdes.
J'ai déposé les fardeaux à Lourdes et ça me permet de déposer les fardeaux d'autres personnes aussi maintenant. Je viens à Lourdes, je remercie tout le temps la Sainte Vierge de m'avoir aidé dans ce parcours et qu'elle nous aide à supporter ça en famille surtout.
Donc vous ne vous lassez pas de venir à Lourdes ?
Je ne me lasse pas de venir à Lourdes du tout.
Et en plus vous êtes chargé de mission. Alors chargé de mission, nous l'avons dit plusieurs fois, pour coordonner un peu la proposition ou la connexion entre Lourdes, le sanctuaire, et ces scouts qui viennent, nombreux, par centaines.
Bien sûr, oui.
Ils sont jeunes, ils ont tous moins de 18 ans, la plupart d'entre eux en tout cas sont mineurs, et ils viennent à Lourdes par choix, chaque été, pour des camps. Hein. Les scouts sont toujours organisés en groupe, et ils viennent pour des camps à Lourdes. Et vous, à quel moment vous intervenez, Patrick ?
Donc les jeunes, d'abord, ce qui est important, c'est que c'est eux qui choisissent de venir à Lourdes. C'est pas un animateur qui dit « cette année, on va à Lourdes faire un camp ». Donc ça, je pense que ça change déjà toute la dimension du projet par rapport aux jeunes. Hein. On peut dire que les jeunes, le plus jeune a 14 ans quand même. Donc vient d'avoir 14 ans et vient se mettre au service à Lourdes. Alors que certains jeunes, pendant ce moment-là, pourraient très bien jouer à la DS ou à d'autres choses, mais ici, voilà, ces jeunes viennent
oui,
à Lourdes en
service. Sur leur ordinateur.
Voilà, donc c'est déjà une bonne chose. Donc ces jeunes s'inscrivent au service jeunes et familles et nous, on prend le relais dès qu'ils arrivent sur place en les aidant à s'installer, en aidant au niveau de l'affectation des services, en aidant en cas de petits soucis quotidiens.
J'ai dit plusieurs centaines. Combien, bon an, mal an, de scouts viennent ?
L'année dernière, nous avons 635 jeunes qui sont venus. Et cette année, au dernier chiffre de cet après-midi, nous serons plus de 800 jeunes qui arrivent. 800 jeunes qui arrivent de la France, de toute la France, mais aussi de l'Espagne, de l'Italie et de la Belgique.
Ces jeunes viennent pour vivre, nous l'avons dit, un camp. Ils ne sont pas des bras, forcément. Ils sont pas de la main-d'œuvre. Voilà, c'est pas du tout ça qui est envisagé. Je me fais provocant volontairement.
Non, du tout, c'est pas ce que... Un projet de camp n'est pas... Quand il y a un projet de camp, il n'y a pas qu'une seule activité. Il y a plein de choses autour et c'est ce qu'on essaye de proposer, nous, ici, à l'accueil scout. Donc, c'est que ces gens, ces scouts puissent vivre leur camp, mais puissent aussi vivre l'aventure de leur camp.
Oui. Donc ça veut dire qu'ils sont dans des conditions souvent un peu précaires. En tout cas, ils choisissent de vivre en camp.
Oui.
Ils sont pas à l'hôtel. Voilà.
Non, ils sont sous tente. Ils font leur manger eux-mêmes. Il n'y a plus papa et maman. Ils
Donc
font leur lessive.
Oui, oui.
La vie scout.
Et ils rendent des services.
Ils rendent des services. Ils rendent des services à l'hospitalité.
Oui.
Ils s'occupent de l'accueil des pèlerins qui arrivent à la gare. Et je pense que souvent on dit oui mais la gare c'est quand même un petit peu compliqué comme service. Moi je trouve que c'est un des plus beaux services parce que le pèlerin qui arrive voit tout de suite le sourire d'un scout. Et je pense qu'un pèlerin qui est bien accueilli est un pèlerin qui va passer un bon pèlerinage.
Ces jeunes, on leur confie des missions de service, vous l'avez dit à la gare, mais il y a d'autres endroits à Lourdes où on a besoin d'eux.
Oui, il y a certainement les brancardages hein, qui sont un gros moment de la vie de ce camp. Il y a aussi les services à la procession eucharistique, le service à la procession mariale, accompagner les pèlerins d'une célébration à une autre, de leur hôtel à une autre, à une autre activité. Ils peuvent aussi aider au service en salle à manger. Aider les personnes à se nourrir, à se déplacer dans l'hôtel.
Donc il y a mille et une choses qu'ils peuvent faire et sur lesquelles ils peuvent rendre un vrai service.
Ah oui, tout ouais. À fait.
Reste que la vie scout, c'est d'abord et avant tout la vie de camp. Donc il ne faut pas que ces services rendus au sanctuaire prennent toute la place.
Ah non. D'ailleurs,
ils ont un projet de camp, j'imagine qu'il y a des projets.
Ils ont un projet de camp et il y a ce qu'on appelle un imaginaire.
Ah.
Donc, à un certain moment de la journée, on dit que par rapport à l'imaginaire, les scouts changent d'environnement. Je prends l'exemple d'un groupe qui m'a contacté, qui, à un certain moment dans la journée, ne sont plus scouts. Ils deviennent aventuriers. Et ce fil rouge sert à l'activité principale de leur journée. Et chaque groupe a son imaginaire, ce qui permet aussi, même quand on a 14 ans, de pouvoir s'évader.
Ah, c'est incroyable. Alors vous-même, vous avez, en parlant de tout ça, des souvenirs, je pense,
oui.
Personnels.
Oui.
Alors, ce que vous appelez l'imaginaire, c'est qu'il y a une histoire, presque un jeu de rôle,
oui,
finalement.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui.
Tout
il y a une
fait,
histoire
c'est...
qui va se raconter jour après jour.
Voilà,
ils sont aventuriers une partie de la journée.
Voilà. Oui.
Quel fil rouge ?
Un fil rouge, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être la construction, ça peut être n'importe quel domaine.
Oui.
Voilà, ici je pense à celui-là, mais il y a plein de domaines. Il y en a mille et un domaines.
Communément, ce qu'on pense des scouts, c'est qu'ils sont débrouillards. C'est vrai qu'ils sont un peu voués à eux-mêmes pendant quelques temps. En tout cas, il n'y a plus papa et maman, il n'y a plus l'encadrement et le confort familial.
Ah non, du tout. Ici, ils dorment en tente, ils font leur manger eux-mêmes, leur lessive. Mais c'est une école de vie. Je pense que les anciens scouts, ben, c'était, vous le diront, c'est vraiment une école de vie. Et je pense que ça a aidé maintenant. Je pense que si des jeunes arrivent maintenant à se débrouiller, c'est grâce au scoutisme. C'est grâce au scoutisme.
Reste qu'ils sont mineurs, donc il faut quand même un peu les encadrer.
Il y a l'encadrement pour eux de leur camp. Ils ont leur chef, leur directeur de camp. Il y a tous les services qui vont avec, au niveau réglementation, BAFA, BAFD, etc. Mais il y a nous aussi qui sommes là pour soulager justement un petit peu en cas de souci.
Il y a ce qu'on appelle à Lourdes le village des jeunes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un lieu un peu singulier au minimum.
Le village des jeunes est un superbe lieu qui accueille, qui a beaucoup, je pense qu'ils ont 5 hectares de terrain et peuvent accueillir 3000 tentes. Donc quand il y a des jeunes qui arrivent pour vivre un moment pareil, c'est énorme. Quand il y a des veillées, je me souviens de l'année dernière, une veillée, on n'était pas nombreux, on était 150. 150 jeunes qui font une veillée, qui chantent autour d'un feu de camp à 22h, 22h30. Mais c'est fabuleux.
Oui.
Ça vaut mieux que toutes les tablettes du monde.
Bien sûr. Là, on sent le père de famille quand vous parlez du numérique et des tablettes et des jeux.
C'est du vécu.
C'est du vécu. Donc ces jeunes, ils peuvent se retrouver entre différents groupes qui ne se connaissaient pas auparavant. Et ils vont vivre une veillée ensemble.
Ils peuvent vivre une veillée ensemble, ils peuvent vivre des activités ensemble, et pourquoi pas tisser des liens pour d'autres camps à venir ou l'année qui vient. C'est ça qui est la magie du scoutisme, entre autres. Hein. Il y a d'autres mouvements de jeunesse qui fonctionnent très bien, mais je pense que ça, plus le lieu qui est très porteur, est une réussite.
Ce qui est porteur à Lourdes, selon vous, c'est que c'est un lieu de service, et puis c'est un lieu qui est aussi dans les Pyrénées, donc dans la nature.
Ce qui est magique, c'est que c'est un lieu polyvalent. Donc les jeunes peuvent vivre leur service, mais ils peuvent aussi vivre des moments de pastoral. Ils peuvent se poser des questions sur leur vie. Ils peuvent passer leur promesse scout s'ils le veulent. Il y a toujours un aumônier avec nous sur le camp du village des jeunes. Ils peuvent aussi, et on leur demande d'ailleurs, de faire connaissance avec le sanctuaire et particulièrement avec l'OCH pour l'apprentissage de la personne handicapée.
L'OCH, c'est l'Office chrétien
de la personne handicapée.
De la personne handicapée.
En se disant que notre Assemblée générale des scouts et guides de France a voté une nouvelle résolution qui est devenir semeur de scoutisme. Et donc devenir semeur de scoutisme, je pense que c'est aussi accepter l'autre dans sa différence et d'aller le chercher où il se trouve.
C'est ce qu'on peut faire, vous dites, à Lourdes. C'est un lieu idéal pour être semeur de scoutisme.
Si on ne peut pas le faire à Lourdes, on ne peut le faire nulle part d'autre.
Et il y a une date sur laquelle on va s'arrêter quelques instants, c'est le 16 juillet.
Oui.
Le 16 juillet, c'est une très belle image que de voir ces scouts qui portent en procession la Vierge de Lourdes, pour rejoindre tous les pèlerins présents dans le sanctuaire. Ils partent de ce village des jeunes dont vous parliez.
Ils partent en haut du village des jeunes et rejoignent la procession mariale le 16 juillet au soir, date de la dernière apparition et date de Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors ces jeunes sont pleins d'entrain et il y a une ferveur énorme qui se dégage. On voit les flambeaux descendre du village des jeunes jusqu'au sanctuaire. C'est un moment énorme. Énorme pour eux, énorme aussi pour le sanctuaire, oui, mais aussi les pèlerins qui se font rejoindre par ces scouts et vivent après une communion énorme.
La veille, le 15, il y a une messe inter-scout.
Une messe inter-scout aussi au village des jeunes. Donc, messe inter-scout veut dire une messe ouverte à tous les mouvements de scoutisme et cette messe sera présidée par Mgr Brouvet.
L'évêque de Tarbes-et-Lourdes.
Oui.
Très concrètement, si une personne qui nous écoute se dit « Tiens, bonne idée, pourquoi pas former, enfin, en tout cas, encourager tel ou tel groupe de scouts à venir à Lourdes. On peut faire comment ? D'un point de vue pratique.
Il y a plusieurs choses. Soit vous prenez contact directement avec le service jeunes et familles du sanctuaire de Lourdes, directement sur leur nouveau site internet, ou bien une adresse mail qui est lourdes@sgdf.fr, qui est l'adresse que moi je gère et je peux rediriger directement vers les liens appropriés pour les inscriptions.
Donc on répète, l'adresse mail c'est lourdes@sgdf.fr,
scout et guide de France.fr.
Voilà, lourdes@sgdf comme scout et guide de France.fr. Et vous aurez au bout Patrick Denis ou sinon très simplement le service jeunes et familles du sanctuaire de Lourdes. Par internet, vous trouverez forcément, il y a des formulaires d'inscription.
Oui, tout est coordonné. Donc,
tout est coordonné.
Quand ils s'inscrivent à l'un, les autres sont au courant, donc tout se passe super bien, tout se coordonne.
Merci à vous, Patrick Denis, on vous souhaite un bon été à Lourdes.
Oui.
Passage à Lourdes.
Présence.
Pour être une présence auprès des personnes seules, pour vous accompagner pendant votre petit déjeuner, en voiture au milieu de la nuit, pour donner la parole aux acteurs de l'Église de notre région, Radio Présence a besoin de vous.
Soutenez Radio Présence. Envoyez vos dons à Radio Présence, 4 rue des Feuillants, 31300, Toulouse.
Présence.
Bonjour, c'est André de Chabanne. Pour écouter le meilleur du jazz, du blues, les toutes dernières sorties d'albums, retrouvez-moi pour ce grand moment d'émotion dans Jazz à tous les étages.
Jazz à tous les étages, le vendredi à 14h04 et le samedi 22h.
Wow.